Les enjeux internationaux.
Rebonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour
Guillaume. Un gros livre ce matin.
Oui, un livre qui est de notre invité, évidemment, Afghanistan de Serge Mikhaïlov. Le sous-titre, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? Serge Mikhaïlov, on l'a reçu plusieurs reprises. Il a été l'un des directeurs de la Banque mondiale, le directeur des opérations de l'Agence française de développement. Alors évidemment, il y a en ce moment une tendance à l'afro-optimisme qui est en train de supplanter l'afro-pessimisme de rigueur depuis des décennies. On peut se demander d'ailleurs si l'avenir de l'Afrique subsaharienne ne passera pas entre les deux avec des développements en tâche de léopard d'ici une trentaine d'années. Alors l'analyse de notre invité penche plutôt vers un afro-pessimisme modéré, s'appuie notamment sur la zone sahélienne, région traversée par des violences multiples, des violences armées, des violences très différenciées, durables, qu'on songe par exemple aux états fragiles, aux états faillis, à l'islamisme radical, aux divers trafics, pêle-mêle et entre autres. Alors justement les mots, donc MAUX, qui je vais finir par épeler tous les mots MOTS, les mots qui frappent le Sahel, comment y remédier, et la réponse de Serge Mikhaïlov d'abord sur les caractéristiques de cette bande saharo-sahélienne, enfin sur ce Sahel.
Eh bien, en fait, cette bande sahélienne m'inquiète aujourd'hui de plus en plus parce que elle me fait penser de façon vraiment très claire à la situation d'Afghanistan il y a quelques années. Le premier problème, c'est un problème démographique. Si vous voulez, pratiquement tous les pays du monde et la plupart des situations ont fait ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire que le nombre d'enfants par femme a diminué de façon radicale pour arriver maintenant à des taux en Asie, en Amérique latine, qui tournent autour de 2,2, 2,3, qui sont proches des taux européens. Et l'Afrique, de façon générale, a tout juste amorcé sa transition démographique et le Sahel ne l'a pratiquement même pas amorcé, puisque nous sommes à des taux de ce qu'on appelle de fécondité, c'est-à-dire nombre d'enfants par femme en moyenne, qui dépasse 7 pour le Sahel. Ça veut dire que la flambée démographique est absolument incroyable. Je vais vous donner un cas typique. Le Niger, qui est au cœur du Sahel francophone, à l'indépendance en 1960, avait 3 millions d'habitants. Bon. Aujourd'hui, il y en a à peu près 20 millions.
6 fois plus.
Quoi qu'on fasse, en 2035, il y en aura 42, 43 millions. Et si le taux de fécondité ne bouge pas, comme il n'a pas bougé depuis 30 ans, eh bien, en 2050, ce sera 89 millions. Alors, ce que je peux dire, c'est que il n'y aura jamais 89 millions d'habitants au Niger. Soit une partie partiront. Alors, ils partiront où? C'est ça le problème. Parce que si au Nigeria, à cette époque-là, aura environ 450 millions d'habitants, peut-être plus. Donc, est-ce qu'ils pourront être absorbés par le Nigeria?
Alors, on ne va pas en parler, Serge Mikhaïlov, mais c'est le sous-titre de votre ouvrage, s'intitule Afghanistan. Donc, le sous-titre, c'est l'Afrique en crise, va-t-elle se retrouver dans nos banlieues, point d'interrogation. Bien, donc on voit les chocs en retour éventuels. Et puis surtout, alors pour en revenir à la bande saharo-sahélienne, au Sahel, ce qui est frappant, c'est quand même le fait qu'il y a beaucoup de pays francophones.
Alors il y a beaucoup de pays francophones, effectivement. Et ce qui m'inquiète également, tout comme en Afghanistan, c'est la stagnation de l'agriculture. L'agriculture, si vous voulez, ce sont des zones où l'agriculture est difficile. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'élevage également joue un rôle très important. Mais vous avez actuellement une descente des isoyettes vers le sud, donc une réduction globale progressive de la pluviométrie qui est très, très claire quand on regarde les cartes sur une quarantaine d'années. Et d'autre part, cette croissance démographique qui s'exerce également en milieu rural, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le monde, crée, si vous voulez, une densité de population rurale qui ne correspond pas avec les systèmes agricoles existants. Ces systèmes agricoles existants sont basés sur des longues jachères. Les jachères se raccourcissent, ce qui fait qu'aujourd'hui, les terres s'épuisent.
Et moins d'emplois pour les travailleurs.
Moins d'emplois pour les jeunes paysans. Pour les jeunes paysans. Moins d'emplois, et comme il n'y a pas d'emploi dans une industrie qui est absente, parce que ces pays sont enclavés, ont un environnement des affaires en plus qui est assez décevant. Donc avec tout cela, pas d'emploi dans le secteur agricole à terme, pas d'emploi dans le secteur industriel, quelques emplois dans le secteur des mines et le secteur extractif, l'activité extractive, mais ça crée très peu d'emplois. Un peu d'emploi dans le secteur des services, la construction, le BTP, etc. Mais ça ne correspond pas aux besoins qui sont créés par la démographie.
Et
donc
une
industrialisation, un désespoir des jeunes.
Et une industrialisation
très limitée.
Alors vous dites d'ailleurs justement, un rappel intéressant, les leçons d'Afghanistan pour le Sahel, et vous dites par exemple, la sécurité ne peut être durablement confiée à des forces étrangères, ça on l'a vu. On ne peut pas laisser les agences d'aide n'en faire qu'à leur tête. Et dans les pays fragiles, priorité à la reconstruction des institutions régaliennes.
Alors, l'autre élément, si vous voulez, qui me fait penser beaucoup à l'Afghanistan, c'est la faiblesse précisément des institutions régaliennes. C'est-à-dire que dès qu'on
Le dites d'une façon polie.
Oui, je le dis d'une façon mesurée,
diplomatique.
Mais, il est bien évident que ces pays sont confrontés à des espaces quasi désertiques et dans lesquels il est très difficile d'ouvrir des routes, de maintenir
des lignes de communication
sont très difficiles. Et vous savez, dès que le pouvoir de l'État se retire d'une zone ou n'existe pas dans une zone, d'autres pouvoirs se mettent en place qui sont des pouvoirs de type mafieux. Et là encore, le parallèle avec l'Afghanistan est tout à fait typique. Alors, ces pouvoirs de type mafieux raquettent les populations et d'autre part se développent sur la base de trafic essentiellement illicite. Alors, on a l'opium en Afghanistan et puis dans les pays du Sahel, on a maintenant les voitures volées, les cigarettes,
différents
trafics, la cocaïne qui vient d'Amérique latine pour les besoins de l'Europe. Donc toutes sortes de trafics se développent, illicites. Et puis vous avez donc des pouvoirs parallèles qui se mettent en place. Et on a bien vu les conséquences que ça fait au Mali.
Mali, oui, avec la montée de l'anomie. Et puis il y a même des États faillis alors qu'ils sont en bordure, évidemment, comme la Somalie, qui n'appartient pas à la zone, mais qui est la corne de l'Afrique, mais qui n'existe plus en tant que tel. Il n'existe plus. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, vous assurez des développements. Donc, c'est un ouvrage paru chez Fayard qui s'intitule L'Afghanistan, que matière à débat, évidemment. Mais vous dites que le prérequis, c'est quand même le développement. Or, le développement, c'est du long terme au minimum. Et le Sahel, ce sont des mots, encore une fois, des calamités qui doivent aussi quand même être réglées à court terme, mais pas seulement par la force militaire.
Alors, si vous voulez, la force militaire, on en voit bien les limites. Hein. En Afghanistan, les Américains ont dépensé 1 000 milliards de dollars pour eux seuls en dépenses militaires. Bon, pour le résultat qu'on voit, où Kunduz est tombé... C'est en plus un échec politique, mais c'est aussi un échec en termes de développement. Et ce n'est pas faute d'argent, parce que l'Afghanistan était le pays le plus aidé au monde. Certaines années, il a absorbé autant d'argent que la Banque mondiale, par exemple, en décaisse sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Bon. Donc c'est pas l'argent qui a manqué, c'est la bonne façon de l'utiliser, c'est l'intelligence dans l'approche, et si vous voulez, c'est le manque de stratégie globale. Donc mon inquiétude, c'est que en matière d'appui au développement, parce que je dirais, l'aide internationale est indispensable au Sahel, elle n'est pas indispensable à l'ensemble de l'Afrique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui se développent sans aide ou avec très peu d'aide, et dans lesquels l'aide est un facteur tout à fait marginal. Mais pour le Sahel, c'est fondamental. Ça représente encore 70 à 80% de leur budget d'investissement. Or, la façon dont elle est gérée, de façon très désorganisée par les institutions multilatérales extrêmement nombreuses, fait que l'efficacité est minime dans les pays qui sont peu structurés comme ces pays-là. Ces pays qui ne savent pas, en fin de compte, imposer leur volonté aux donateurs qui sont extrêmement indisciplinés. Je me souviens encore un ambassadeur que j'interrogeais à ce sujet en Afghanistan, mais me disait « mais les donateurs sont comme un troupeau de chats, on les trouve partout où il faut pas et nulle part où il faut ». Donc ça donne bien l'idée du désordre, si vous voulez, qui accompagne tout cela. Et ça implique, si vous voulez, une révision des méthodes de travail, des méthodes d'approche de l'aide internationale, que je ne vois pas se mettre en place sur le Sahel aujourd'hui.
Serge Mikhaïlov, donc l'auteur d'Afghanistan, paru chez Fayard, l'un des anciens directeurs de la Banque mondiale. Donc franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Demain, nous mettrons donc en perspective les législatives qui s'annoncent en Birmanie. Notre invitée sera Sophie Boisseau-Durocher.